Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ce qu'on constate dans le contexte dans lequel cela est écrit, et contexte d'Israël occupé par les Romains, Israël dans un contexte spirituel bien particulier, avec des hommes et des femmes qui étaient dans les ténèbres, puisque le prophète Ésaïe disait que la Galilée dans laquelle vivaient tous ces gens, eh bien, était environnée par les ténèbres. Les Galiléens étaient vraiment dans les ténèbres et ils ont vu une grande lumière apparaître. Cette lumière n'était pas une lumière particulière, c'était le Fils de Dieu venu sur terre. C'est lui la lumière et dans la personne toute simple de ce bébé, où ils ont discerné quelque chose de plus qu'un simple bébé qui venait de naître. Personne n'attendait vraiment Jésus, en vérité. Et pourtant, en Israël, il y avait une attente très, très forte. On attendait la venue du Messie, mais on n'attendait pas Jésus, bizarrement. Mais pour un autre but que celui que Dieu poursuivait, on attendait le Messie. Quel était ce but ? En fait, les Israélites attendaient un libérateur, quelqu'un qui les libérerait de la férule des Romains qui était l'occupant pesant de ce territoire qui était donc occupé par cette puissance étrangère qu'était Rome. Et dans leur esprit, le Messie qui devait venir devait être comme un général libérateur qui allait établir le royaume de Dieu, mais en anéantissant les Romains. Et ce n'était pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu était de gagner l'Empire romain, de gagner les citoyens de Rome en même temps que ceux d'Israël. Sa pensée englobait l'humanité et tout cela était pourtant écrit, mais ils n'ont discerné que ce qui les intéressait dans la parole de Dieu. L'humain est comme ça, la Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître ? Nous sommes facilement tordus et nous prenons dans la parole de Dieu ou dans la religion ce qui nous intéresse uniquement. Pourtant, la parole de Dieu contenait toute l'information requise pour discerner les choses qui précéderaient la venue du Messie. Et Dieu va provoquer toutes sortes de circonstances mystérieuses qui font que Jésus va être entouré de personnes à la fois de conditions humbles, comme des bergers, et de conditions plus riches, comme l'étaient ces étrangers venus d'Orient, c'est ce qu'on appelle les mages. Tout d'abord, si on parle d'Épiphanie, qu'on célèbre ce jour-ci, 5 janvier, c'est une fête qui est venue d'Orient et par laquelle on rappelle la venue, non pas de roi mage, mais comme la Bible le dit, de mages venus d'Orient. Il n'y a pas de roi, ils n'étaient pas des rois. Ces mages venaient d'Orient, particulièrement de Perse, c'est-à-dire de l'Iran actuel. Ils étaient venus de plus de 1000 kilomètres jusqu'en Israël. Ces mages étaient des savants, c'est-à-dire des astronomes, des gens qui observaient les étoiles, et ils venaient d'une caste sacerdotale de leur religion, la religion perse qui était le mazdaïsme. Et une épiphanie, qu'est-ce qu'une épiphanie dans la Bible ? Dans le langage théologique de la Bible, une épiphanie, c'est une manifestation de Dieu. Vous en avez, par exemple, quand il y a dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel. C'est une épiphanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Et l'épiphanie est une manifestation de Dieu. Et ces hommes vont reconnaître dans la personne de l'enfant Jésus le Messie divin qui devait naître. Ils ont eu le discernement parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu et ils connaissaient en même temps Dieu. Et par cette intuition qu'ils avaient dans leur esprit, ils ont su reconnaître le temps et l'époque dans lequel ils vivaient. Ils ont su reconnaître qui était le Messie dans la personne d'un simple bébé venu au monde dans une étable, car même dans ce monde où il est venu comme bébé, personne ne voulait accepter la venue de Jésus. Il n'y avait pas de place dans les hôtelleries, il n'y avait pas de place dans les maisons, il n'y avait pas de place dans le cœur des gens déjà pour accueillir l'enfant Jésus. Il est donc né dans une étable. Et j'oserais dire, y a-t-il de la place dans notre cœur pour accueillir Jésus cet après-midi ? Est-ce qu'il y a une place dans ton cœur pour accueillir celui qui est venu, qui a déchiré les cieux pour venir sur cette terre, pour y venir mourir pour ton péché ? Y a-t-il une place dans ton cœur où rejettes-tu en bloc la vérité de sa venue ? Peut-être tout simplement es-tu indifférent. Et c'est pire encore, l'indifférence. Car mieux vaut être froid ou chaud que tiède. Mais il n'y avait pas de place dans le cœur des gens. Il n'y avait pas de place dans le cœur des religieux juifs pour la venue de Jésus. Une épiphanie, donc, c'est une manifestation de Dieu. Et la venue de Jésus, c'est la manifestation de Dieu incarné. Dieu qui venait prendre chair dans la nature humaine, dans la personne d'un bébé appelé Jésus, qui va devenir ensuite adulte. Même Hérode, le roi juif, ne savait pas où devait naître le Messie, puisqu'il va poser la question. Il va consulter les prêtres juifs et les scribes. Et ceux-ci vont évoquer alors, parce qu'ils n'étaient pas ignorants, la prophétie vieille du prophète Michée, un contemporain du prophète Ésaïe et du prophète Osée, c'est-à-dire 7 siècles avant la naissance de Christ. Ils vont afficher cette prophétie qui était écrite et qui disait « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Il s'agit d'un berger, car c'est le même terme en hébreu. Roche, le berger, la tête, qui paîtra, c'est un berger qui paie son troupeau. C'est pas quelqu'un qui allait venir comme un général avec une épée, une kalachnikov, des mitrailleuses, des chars ou des avions. Mais c'était un homme de paix qui allait venir. C'était le Messie qui venait et il venait dans la paix. Il venait d'abord réconcilier Dieu et l'être humain. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est venu. C'est la principale raison de sa venue. Il est venu réconcilier Dieu et les hommes par le sang de sa croix, là où il a donné son sang, expiant notre péché. C'est notre péché qui nous éloignait de Dieu. C'est le péché qui constitue un mur entre nous et Dieu. Et Jésus est venu abattre ce mur. Jésus est venu verser son sang pour que ce mur soit abattu, car il fallait que l'innocent meure pour les pécheurs que nous sommes. Peut-être tu te dis dans ta tête en cet instant même que tu es bien brave et que tu n'es pas pécheur. Tu dis, je suis brave, moi j'ai pas commis des grands péchés. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste, il n'y a pas un seul innocent, il n'y a pas un seul homme ou une seule femme de bien, car nous avons tous à un moment donné au fond de notre cœur des motivations impures, des motivations qui ne sont pas justes. Il n'y a pas de juste, pas seul, pas un seul, pas même un seul, dit la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il fallait que vienne le véritable juste, Jésus-Christ qui est venu. Et le juste a été déclaré coupable pour que nous soyons innocenté. Le juste s'est vu imputer notre péché pour qu'à notre tour, les injustes que nous sommes se voient imputer la justice de Jésus qui était sur la croix, portant notre péché, portant la peine de notre péché. Abandonné des hommes, abandonné de Dieu pour nous. C'était nécessaire. Jésus avait dit, il faut que j'aille à Jérusalem y souffrir de la part des principaux sacrificateurs, etc. Il fallait qu'il aille souffrir sur la croix. Il fallait qu'il meure pour nous sur la croix. C'était une nécessité. Il faut que tout est dans le détail. Et que ces hommes aient ignoré auparavant que Jésus allait naître à Bethléem, ils s'en rendent compte à présent qu'ils consultent les Écritures. La venue seule de cet enfant a suffisait à bouleverser le pouvoir politique de l'époque, comme on le voit avec Hérode qui est épouvanté. Il croit que ce jeune bébé est une menace pour lui. Il croit qu'il va lui prendre sa place. Mais Jésus n'est pas venu pour être le roi d'Israël à cette époque. Jésus est venu pour être le roi dans les cœurs, pour établir son royaume dans les cœurs, pour régner dans nos vies. Parce que pour nous, c'est la véritable liberté. Quand nous donnons notre vie à Jésus, quand nous donnons notre cœur à Jésus, quand nous donnons les rênes de notre vie à Jésus. Et ainsi, le péché n'a plus de puissance sur nous. Le péché ne peut plus nous maîtriser. Nous devenons maîtres de nous-mêmes par la grâce de Dieu, parce que Jésus vient régner sur nous. Et la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Vous connaîtrez la vérité et vous serez réellement libres. Mais aimes-tu la vérité ? Un homme, pense Pilate, a dit « Qu'est-ce que la vérité pour ce défilé ?» Les gens d'aujourd'hui n'aiment pas la vérité, encore moins celui qui incarne la vérité. Mais une seule chose est sûre, dès lors que tu entends parler de la vérité, dès lors que tu entends parler de Jésus comme étant le chemin, la vérité et la vie, tu deviens responsable du message que tu as entendu. Et quand tu vas sortir tout à l'heure, tu sauras que Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie qui vaille et qu'il est le chemin qui conduit au Père. Et si tu meurs demain, tu ne pourras pas dire à Dieu « je ne savais pas ». Tu seras conduit immédiatement vers une éternité sans Dieu. Ta bouche se fermera parce que le seul souvenir de cette salle, de ce que tu as entendu, suffira. Oui, parce que demain, notre âme peut nous être redemandée. On peut mourir à tout instant. Ce que nous entendons cet après-midi peut avoir une portée éternelle, c'est-à-dire une portée sur l'éternité de notre âme. Nous ne plaisantons pas. Le dépôt que nous avons, c'est la vérité de Dieu. Ce qui est prêché, c'est la vérité elle-même, Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas rigoler avec ça, parce que derrière, il y a le salut des âmes, notre éternité, avec ou sans Dieu. Alors peut-être que tu te dis, moi je m'en fous, éternité sans Dieu ou avec Dieu, pff, de toute façon j'y crois pas. Je vais dans le trou. Quel trou ? Ton corps va dans le trou, mais ton âme, penses-tu à ton âme ? Peut-être penses-tu que tu n'as pas d'âme. Peu importe, tu en as une quand même. Où va-t-elle aller ? Est-ce que nous sommes plus sérieux que toi ? Nous prenons soin de ton âme en t'annonçant l'Évangile, et toi tu t'en fiches de ton âme et de ton devenir. Mais sachez une chose, chers amis, il y a un enfer. On l'appelle comme ça, mais c'est le lieu où Dieu n'est pas. C'est le lieu où Dieu est absent. C'est le lieu de la conséquence de nos décisions. C'est un lieu où vous serez tranquille finalement. Si vous n'aimez pas Dieu, il ne viendra pas vous embêter, il n'y est pas. Mais les gens qui y sont, sont tourmentés au siècle des siècles. Ils vivent dans des regrets permanents. Les regrets de ne pas avoir donné leur vie à Jésus quand cela leur a été annoncé. Et pendant toute l'éternité, ils vont être tourmentés avec ces regrets. Imaginez-vous quand vous êtes dans la culpabilité par rapport à quelque chose qui vous travaille. Vous pouvez ne pas dormir plusieurs nuits d'affilée et la même pensée vous revient parce que vous vous sentez coupable. Eh bien là, ça sera multiplié à l'infini. et tout pour l'éternité, c'est-à-dire il n'y aura pas de fin. Vous vous rappellerez le moment dans cette salle où pour la première fois, peut-être vous entendiez clairement l'évangile vous être annoncé et vous allez avoir des regrets d'avoir dit non à Dieu, d'avoir dit non à Jésus, de ne pas avoir considéré Jésus et d'avoir fait au fond comme ces gens en Israël qui n'ont pas voulu recevoir le bébé dans les hôtelleries et qui ont laissé ce bébé venir au monde dans une étable. Ou comme ces gens à Samarie dont il est dit « On ne le reçut pas ». Et peut-être aujourd'hui tu ne vas pas recevoir Jésus parce que tu n'aimes pas l'idée de Jésus, parce que ça te rappelle ton péché. Ça te rappelle que même si tu crois que tu es brave, tu es pécheur. C'est-à-dire tu es séparé de Dieu à cause de tes actes qui sont anti-Dieu, parce que tout simplement tu t'opposes à Dieu, tu repousses même l'idée de Dieu. Or Dieu est ton créateur et tu le repousses, comme si l'horloge repoussait l'horloger en quelque sorte, ou l'argile repoussait le potier qui l'a formé. Qu'allons-nous faire de Jésus ? C'est la question qui était posée. Que ferons-nous de l'homme appelé Jésus ? Certains ont crié « Crucifie ! Crucifie ! » avec une grande méchanceté, avec une grande colère, croyant que cela allait mettre fin au Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu était justement venu pour cela. Et ce cri de haine n'a fait qu'accomplir la justice de Dieu, n'a fait qu'accomplir ce que Dieu voulait, le plan de Dieu pour racheter l'humanité. Le Christ est véritablement mort, il a souffert, oui, il est mort, mais il est ressuscité. Et il est vivant encore aujourd'hui. Son sacrifice a été approuvé de Dieu. Et tous ceux qui croient en lui sont sauvés, pardonnés de leurs péchés, ont la vie éternelle, seront avec lui pour toujours. Alors que d'autres seront dans les tourments éternels. Les uns vont vers la mort éternelle, d'autres vers la résurrection éternelle. La venue seule de cet enfant donc a suffi à bouleverser le pouvoir politique, le système religieux et même le peuple. Même des gens de l'étranger se sont donc déplacés pour connaître le roi dont ils ont vu l'étoile et qu'ils ont suivi sur plus de 1000 kilomètres de distance. Une prophétie plus ancienne donnée par un homme appelé Balaam qu'on trouve dans Nombre 24, verset 17, dit ceci, « Je le vois bien, mais ce n'est pas pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre monte de Jacob, un sceptre surgit d'Israël. Il brise les flancs de Moab, il abat tous les fils de Seth. Un astre monte de la tribu de Jacob, un sceptre surgit d'Israël. Le royaume de Jésus, la personne de Jésus, cet astre, et en même temps le sceptre qui est son sceptre pour régner, est déjà annoncé par cet homme dans le livre des Nombres, au temps de Moïse. Des milliers d'années avant. Il connaissait les Écritures, il savait que c'était écrit. Et les mages, eux, peut-être connaissaient-ils les Écritures, car le prophète Daniel avait été premier ministre en Perse et avait certainement laissé des traces par son témoignage. Et peut-être avait-il diffusé les Écritures à l'époque, et peut-être ont-ils eu l'occasion de lire cette prophétie. Mais en tout cas, nous les voyons adorer l'enfant. En fait, ils discernent en lui le Messie. Eux qui sont des étrangers à la religion juive, ils discernent le Messie, le roi qui devait venir en la personne de Jésus. Ce roi, il est venu inaugurer son royaume sur terre. Un royaume qui vient d'abord dans le cœur des hommes qui croient, pour les libérer de la puissance du péché et des passions qui les asservissent, pour les libérer d'une vie d'esclavage, pour les libérer d'une vie fade, d'une vie sans sens, d'une vie triste et pénible. Quel est le sens de ta vie aujourd'hui ? Est-ce que ta vie est explosive ? Est-ce que ta vie est effervescente ? Est-ce qu'il y a une intensité dans ta vie ? Est-ce qu'elle a véritablement un sens ? Bien souvent, il n'y a pas de sens, on ne sait même pas où on va. Les gens tâtonnent, ils sont dans l'aveuglement. Le seul qui puisse donner un sens à notre vie, c'est celui qui est la vie. Lui-même, Jésus, qui a dit « Je suis la vie, je suis venu vous apporter la vie et je suis venu vous la donner en abondance. » n'est pas une petite vie chiche qu'il nous donne, mais c'est une vie puissante, une vie glorieuse, une vie magnifique, une vie puissante qui bouillonne en nous. C'est cette vie de qualité qu'est la vie éternelle déjà sur cette terre. Et on sort alors d'une vie fade, comme nous l'a raconté Émilien, une vie fade, une vie sans sens, une vie triste, une vie pénible. J'ai connu ça moi-même, une vie où il y a un vide sidéral. On se sent seul, on se sent vide. Mais Jésus vient apporter la joie abondante et sa paix. Il y a un avant et un après. Quand on reçoit Jésus, il y a l'avant et il y a après. Il apporte la joie abondante, il apporte la paix qui est immense comme un océan, deux caractéristiques de son royaume d'ailleurs, que sont la paix et la joie. Et il vient chercher et sauver les brebis perdues, toutes ces personnes qui vivent loin de lui, et il veut les rapprocher de lui pour qu'elles fassent partie de son royaume. Jésus est venu inaugurer un royaume sur terre, et pour que cela soit une réalité, il a dû passer par les souffrances de la croix. Jésus devait mourir pour chacun de nous. Il devait porter à notre place la condamnation qu'exigeait la gravité de notre péché. Il est venu pour porter nos souffrances, nos infirmités, nos langueurs, nos maladies, toutes les conséquences du péché. La Bible dit qu'il était notre substitut, c'est-à-dire qu'il est venu, il était fait péché à notre place. Il était fait péché à notre place. Et Dieu a dû détourner sa face de lui quand toute l'horreur de notre péché a été plaquée sur sa face innocente. Et il a expié pour nous, étant l'agneau immolé, offert pour nous. Ce roi qui a jeté les fondements de son royaume, c'est aussi le roi qui reviendra pour être introduit dans son règne. Actuellement, il n'est le roi que de ceux qui l'ont choisi comme roi, qui ont choisi de le suivre, qui ont ouvert leur cœur. Mais bientôt, il reviendra. Et beaucoup, parmi tous les peuples, l'adoreront. Il y a d'ailleurs des représentants de ces peuples ici. Il y a des Français, du peuple de Dieu, des Français. Il y a des Guyanais. Il y a ici un Burundais. Il y a des gens du Congo. Il y avait ce matin un frère du Ghana. Nous avons Haïti, j'en passe des meilleurs, la Côte d'Ivoire. Dans d'autres assemblées comme celle-ci, il y a des Asiatiques. Tous les peuples seront bientôt réunis pour adorer l'Éternel. Tous ceux qui ont choisi Jésus parmi tous les peuples. La Bible dit que des gens de tout peuple, de toute race, de toute nation loueront et adoreront l'agneau de Dieu dans le ciel. Alors nous pouvons imiter l'attitude des mages, ils ont cru la parole de Dieu, ils ont cherché Jésus, ils ont reconnu sa valeur et ils l'ont adoré. Les cadeaux qu'ont amenés les mages valorisaient en effet qui était Jésus. Ils ont offert de l'or. Ah, c'est le truc, la valeur ajoutée, l'or. Hein. L'or représentait la majesté de Dieu. En offrant l'or, ils reconnaissaient que Jésus était divin, que Jésus était Dieu manifesté en chair. Ils ont offert de l'encens qui nous parle aussi de sa divinité. L'or représentait la majesté divine, l'encens, la divinité, et la myrrhe parle des souffrances et de la mort de Jésus, parce que la myrrhe, c'était l'un des ingrédients qui ont servi, qui servait même à l'époque, à l'embaumement des morts. Et la myrrhe nous rappelle que Jésus allait souffrir, que Jésus allait vivre la croix, la couronne d'épines, les crachats, les insultes, ces mêmes insultes qui aujourd'hui l'insultent encore. Quand vous parlez de Jésus dehors à des gens, il y en a, ils crachent, ils insultent, ils invectivent. Les mêmes qui disent que Jésus, il n'existe pas, quand vous en parlez, ils réagissent mal. Parce qu'il existe. Et leur réaction montre qu'il existe parce qu'ils en font une maladie. Voyez-vous, le nom de Jésus gêne. Parlez un petit peu de Dieu, ça va. Dieu, c'est assez général, voyez-vous. Jésus, c'est Dieu en action. C'est Dieu manifesté. C'est l'évidence parmi les hommes. Alors ça dérange. Le nom de Jésus dérange. Mais moi, j'aime dire le nom de Jésus. J'aime proclamer le nom de Jésus. J-E-S-U-S. Oh, vous suivez rien. Hein. Les chrétiens, vous suivez rien. J, faites-moi un J. Non, on n'a rien entendu, là. Faites-moi un J.
J-E-S-U-S.
Jésus. Voilà. Nous, nous aimons le nom de Jésus. Même si ça donne des réactions épidermiques à quelqu'un, c'est pas grave, nous le prononcerons autant de fois qu'il le faudra. Alors il y a eu des réactions à la venue du roi. Hérode a manifesté de l'hostilité et une haine implacable. Il a voulu faire assassiner le petit enfant qui, heureusement, a été escamoté à la vue d'Hérode, mais il a massacré les enfants en dessous de 2 ans. Impitoyable, ce roi Hérode. Il y avait les prêtres juifs qui, eux, étaient dans l'indifférence et qui mettaient leur religion en avant, alors que c'est celle qui annonçait Jésus. Et pourtant, ils mettaient leur religion en avant, qui annonçait le Messie. Et pourtant, quand le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Mais la Bible dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Les mages, eux, représentent tous ceux qui adorent et qui payent un prix coûteux dans leur adoration. Ils ont offert l'or, l'encens et la myrrhe. Tout ce qui, pour nous, va représenter l'or, l'adoration de la majesté divine, l'encens sont nos prières, et la myrrhe, c'est toutes nos souffrances, et peut-être la douleur chirurgicale due à l'opération qu'a subie notre frère, quand notre ego nous en sommes débarrassés par la mort à nous-mêmes, par la croix du calvaire. Amen. Les mages ne se sont pas satisfaits uniquement de voir une étoile et de l'admirer parce qu'elle brillait particulièrement. Ils ont fait du chemin pour la suivre. Et parfois, il faut persévérer pour trouver le Seigneur. Ils ont persévéré dans leurs recherches. Ils ont réalisé qu'un événement unique était en train d'avoir lieu et ils ont suivi l'étoile. Ils ne se sont pas laissés décourager dans leurs recherches par les sacrificateurs et les leaders religieux douteux. Ils se sont réjouis à cause de l'étoile, nous est-il dit. Et quand ils sont parvenus à l'endroit où l'étoile était arrêtée et brillait, ils sont entrés. Ils sont entrés. Ça nous parle de l'Église. Quand vous entrez dans l'Église, vous avez fait un petit pas vers Dieu. Alléluia. Si vous êtes venus juste pour manger la galette des rois, c'est bien pour votre estomac, mais vous êtes les plus misérables des personnes parce que vous allez sortir pas enrichis du tout de la personne de Christ. Quand ils sont entrés, ils ont adoré. Ils sont entrés et ensuite sont devenus des adorateurs. Tu peux entrer dans cette salle et devenir à ton tour un adorateur, une adoratrice. Ils ont senti l'urgence d'adorer et ils n'ont pas attendu. Un prédicateur qu'on a appelé le prince des prédicateurs, d'ailleurs Charles Spurgeon, il a dit « Il y a là un modèle merveilleux. Ceux qui cherchent Jésus le verront. Ceux qui véritablement le verront l'adoreront. Et ceux qui adoreront se consacreront à lui. » Quatrième chose, et toi, que feras-tu de Jésus ? Que fais-tu de Jésus qui est venu pour mourir pour toi afin que tu sois sauvé ? Que vas-tu faire alors qu'il te dit « Suis-moi et deviens mon disciple » ? Seras-tu indifférent ? Seras-tu comme Hérode en colère, haineux ? Ou bien comme les mages, vas-tu entrer en relation avec lui, aimer son Église et décider de marcher avec lui en nouveauté de vie, parce que sa véritable volonté, c'est de transformer nos vies, de nous libérer de nos chaînes, de nos vices, de nos passions, de guérir nos plaies. L'Évangile, la bonne nouvelle, est une puissance de vie qui, là où elle passe, nettoie tout, transforme tout, libère, forge, façonne. La Bible dit « C'est aujourd'hui le jour du salut. » Tu peux remettre à demain, mais si demain t'es mort, ça sera trop tard. « C'est aujourd'hui le jour du salut, » dit la parole de Dieu. « C'est aujourd'hui le jour du salut, le jour où nous pouvons rencontrer le Seigneur. » Nous allons prier quelques instants. Alléluia. Notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, nous voulons vraiment te bénir. Ta parole est éternelle, ta parole est la puissance de vie. L'Évangile est la puissance de vie pour celui qui croit. Seigneur, je prie pour que cet après-midi, tu donnes à plusieurs de croire. Ta parole est une force. Et cet après-midi, je prie pour que le Saint-Esprit scelle la puissance de cette parole dans les cœurs. Touche cet après-midi les cœurs, Saint-Esprit de Dieu, afin que, Seigneur mon Dieu, le granit soit brisé par le marteau de ta parole. Que l'action de l'amour de Dieu, du Saint-Esprit, amollisse le cœur dur. Au nom de Jésus, parle. Tu parles, Seigneur, à des âmes. Tu parles à des cœurs afin qu'ils se déterminent, qu'ils prennent des décisions pour toi. Alléluia. Seigneur, parle et rappelle que nous sommes des pécheurs. Il rappelle que si nous croyons n'avoir pas de péché, nous nous aveuglons, car il connaît tous les péchés que nous avons commis depuis tout petit. Et il pourrait nous en rappeler, surtout à toi qui dis ne pas en avoir. Il te rappelle les choses viles que tu as commises. Il les met devant toi et tu les vois en cet instant précis. Il te rappelle ce que tu as fait qui n'était pas bien du tout. Comment tu as trompé. Comment tu as trompé. Comment tu as menti. Ce qui fait de toi quelqu'un de pécheur, quelqu'un qui a violé le commandement, tu ne mentiras point, tu ne tromperas point, tu ne convoiteras point. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour les pécheurs que nous sommes. Si nous nous repentons de nos péchés, si nous confessons à Dieu nos péchés, alors il est fidèle, il est juste, pour nous les pardonner et nous en purifier, nous en libérer, parce qu'il a payé pour cela. Il a payé ta dette. Et cet après-midi, il veut te rappeler qu'il t'aime. Il veut te rappeler que son grand amour s'est manifesté dans la personne de Jésus. La Bible dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné le Fils afin que quiconque, et tu peux mettre ton prénom dedans, afin que quiconque, périsse pas, c'est-à-dire ne soit pas perdu pour l'éternité, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous prions, Seigneur, cet après-midi parce que l'enjeu, c'est l'éternité de l'âme, le salut éternel dans ta présence, dans ton ciel. L'enjeu est grand, Seigneur. Et nous combattons dans l'arène pour que les âmes se tournent vers toi. Brise les résistances. Brise la dureté de cœur. Brise l'indifférence. Brise la tiédeur. Brise les faux semblants. Que la vérité fasse exploser l'incrédulité au nom de Jésus. Manifeste ta gloire et ta grandeur. Manifeste ton amour, Seigneur, à quiconque te laisse une place cet après-midi. Tu l'as dit tout à l'heure, tu veux un espace. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, dit le Seigneur, si tu ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai et je souperai avec toi. Je communierai avec toi. Pour la première fois, tu seras en communion avec moi. Alléluia. Le Seigneur veut transformer, veut engendrer à la vie nouvelle, apporter cette vie nouvelle, cette vie de transformation, cette vie de sanctification. Il est vivant et il t'aime. Marche avec lui. Décide de marcher avec lui. Décide de lui faire confiance pour ton salut et ta vie sera transformée en quelques instants. Tu naîtras de nouveau, comme le dit la parole de Dieu. Tu auras une nouvelle vie. Tu ne seras plus le même, tu ne seras plus la même. Parce que Jésus transforme ceux qui lui font confiance. Oui, Seigneur, bénis. Bénis cet après-midi. Sauve, abre étendu, arrache aux ténèbres, arrache au siècle mauvais toute âme qui ne te connaît pas, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Alléluia.